RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir à Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc, le président Emmanuel Macron, le 31 décembre, avait demandé à Édouard Philippe et à son gouvernement de trouver un compromis rapide. Hier soir, votre homologue de la CFDT, Laurent Berger, s'est dit toujours opposé à l'âge pivot, mais il a proposé une conférence sur le financement du système de retraite. Le Premier ministre a bondi comme un cabri, comme d'ailleurs Bruno Le Maire, et il lui a répondu que c'était une très bonne idée. Ce matin, donc, une réunion de négociation a eu lieu. Est-ce que pour vous, les lignes ont bougé ou de toute façon, âge pivot, pas âge pivot, conférence de financement, de toute façon, pour vous, c'est toujours niette ?
Les lignes bougent, mais sur des questions qui n'ont pas à voir ou qui ne justifient en aucun cas, de mon point de vue, la modification ou la mise en œuvre d'un régime unique par points, ce que souhaite faire le gouvernement. Pourquoi ? Parce que de quoi a-t-on parlé ce matin ? Alors, il y a cette question du financement, c'est vrai. Il y a la question de l'emploi des seniors.
Pour vous, elle est importante ou pas, cette question du financement ?
Oui, mais c'est une question permanente. Régulièrement, pas chaque année, mais régulièrement, en avril dernier, par exemple, sur les retraites complémentaires, nous avons signé un accord après des négociations avec les employeurs, qui concerne quand même 18 millions de salariés cotisants actifs hein, sur les retraites complémentaires. Hein. Les retraites complémentaires, c'est tout de même 70 à 80 milliards de prestations sur les 314 milliards de prestations retraite chaque année. Eh bien, nous avons négocié de telle manière à ce qu'on préserve à la fois le pouvoir d'achat des retraites complémentaires tout en assurant l'équilibre. On a une trajectoire financière à l'équilibre des retraites complémentaires, qui est le résultat de cet accord au mois d'avril dernier, sur les 15 années à venir, avec une garantie du pouvoir d'achat des retraites complémentaires, qui plus est sur les 4 années à venir au regard de l'inflation. Mmh. Donc, cette question-là, bien sûr qu'elle se pose, mais dans le contexte du système de retraite actuel. Elle n'a pas à justifier la remise en cause, la disparition du système de retraite actuel pour aller vers un régime unique par points. Donc, ça.
Alors, Yves Verrier, pour vous, c'est le système par points en lui-même qui n'est pas le bon choix. Pour quelle raison le gouvernement, le président de la République disent c'est un système qui va être plus juste parce qu'il sera universel et qu'il donnera tout le monde, à tout le monde les mêmes droits. Un euro cotisé ouvrira les mêmes droits à tout le monde. En quoi cette idée-là est-elle mauvaise pour vous ?
Tout d'abord, un système universel, nous avons aujourd'hui un droit universel à la retraite. Je ne dis pas que tout est parfait et je ne pense pas que tout serait parfait demain dans quelque système que ce soit. Il y a à améliorer, mais nous avons aujourd'hui un droit universel à la retraite. Ensuite, on nous dit un euro cotisé donnera les mêmes droits. Bon, ça a l'air plutôt sympathique. Le problème, c'est que le gouvernement, plus juste, en quoi sera-ce plus juste demain, en dehors de l'affirmation du 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits.
L'exemple, c'est les femmes avec les carrières hachées, c'est-à-dire que ça prendra en compte, effectivement, les moments où elles n'ont pas travaillé, où il y a eu de toute façon des trous d'air dans leur carrière.
Oui, mais vous voyez, là, c'est exactement les formules de langage que les gouvernements nous assènent régulièrement. Il y a beaucoup de communication, mais...
Et c'est faux, alors dites-nous.
Ben oui, bien sûr. Alors,
expliquez-nous.
En deux mots, pourquoi le régime unique par point pose problème de notre point de vue pour nous ? Pour deux raisons majeures. Premièrement, là où on acquiert des droits à la retraite sur la base de trimestres validés chaque année et où on calcule les retraites ensuite sur la base des 25 meilleures années dans le régime général de la sécurité sociale de votre carrière, demain, justement, il vous faudra cotiser et acquérir des points tout au long de votre carrière. Donc, y compris, par exemple, la question des carrières hachées, des carrières interrompues, des périodes de bas salaire, de temps partiel subi. C'est vrai que ce sont plus souvent les femmes qui subissent ces circonstances tout au long de leur vie active. Eh bien, le moment venu, votre capital de points sera plus difficile à vous garantir un droit suffisant à la retraite que si vous éliminez les mauvaises périodes pour ne vous concentrer que sur les 25 meilleures années de votre vie active. Si vous avez eu des périodes en début de carrière plus difficiles, parce que petit boulot, petit salaire, temps partiel, et que au fur et à mesure du temps, ce que le haut commissaire disait, les favorisés du système actuel sont les carrières longues et ascendantes. Bah oui, mais c'est ce à quoi tout un chacun aspire. Donc, si vous éliminez ces périodes difficiles avec le système actuel, les 25 meilleures années, vous comprenez aisément que vous aurez un droit à la retraite plus conséquent. Mais le deuxième aspect dangereux de notre point de vue, et qui, de mon point de vue, est une erreur de la part du gouvernement, c'est que le régime unique par point, par définition, passera sous tutelle de l'État, parce qu'il concernera l'ensemble de la population.
Ce n'est pas aujourd'hui ce que dit le gouvernement, qui dit que ce seront les partenaires sociaux qui géreront ce système.
Oui, le problème, il y a ce qu'il dit.
Vous pensez qu'à un moment donné, ils ont l'intention de reprendre la main rapidement sur...
Mais il y a ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Il suffit de se référer au rapport du haut commissaire, qui n'a jamais été démenti, qui dit très précisément que...
Jean-Paul Delevoye.
Oui, mais c'est toujours le même rapport.
Oui, non,
il n'y a pas d'autres rapports ni préconisations, et ça n'a pas été démenti par le gouvernement. Oui. Il a été présenté, ce rapport, au Premier ministre, qui l'a fait sien. Oui. Bon, ce rapport dit exactement la chose suivante. Le cadre du pilotage financier du futur régime sera défini par les lois de finances de la sécurité sociale, proposée par le gouvernement et adoptée par le Parlement. Bien. On nous dit, on va mettre en place un conseil d'administration avec les interlocuteurs sociaux, donc organisation syndicale de salariés d'un côté et organisation d'employeurs de l'autre. Sauf que, moi, organisation syndicale, je n'ai aucune légitimité à négocier pour le compte des professions indépendantes, des commerçants, des artisans, des exploitants agricoles. Ils seront en face de nous. Ils seront en face de nous en tant qu'employeurs. Mais ils seront à la fois employeurs et pensionnés du système en tant qu'exploitants agricoles, artisans, indépendants, etc. Donc, on voit bien qu'on est en train de diluer, de confondre les rôles respectifs et en tout état de cause... Nous émettrons des propositions que le gouvernement suivra ou ne suivra pas, comme alors, dans le régime de base de la sécurité sociale aujourd'hui.
Est-ce qu'on est, Yves Verrier, arrivé au bout du chemin, en tout cas de la négociation, parce que vous considérez qu'il est possible qu'il y ait un accord entre le gouvernement et la CFDT et l'UNSA? Est-ce que d'après vous, on touche au but là-dessus?
Sans,
bien sûr, FO, la CGT...
J'ai du mal à vous dire si la CGT, l'UNSA et le gouvernement vont trouver un accord. Là,
vous avez une petite idée, quand même, de ce qu'ils jouent.
Très franchement,
c'est aussi de la politique.
Non, parce que j'ai compris qu'il y avait cette question de l'âge pivot pour la CFDT, qui en fait un totem. Bon, moi, je le redis encore une fois, pourquoi il y a l'âge pivot aujourd'hui? Parce que le gouvernement, il a dû reculer à la génération 75, la mise en œuvre du régime unique par point. Donc, ça n'est que dans bien plus tard qu'ils pourront, les gouvernements, agir sur les leviers valeurs du point. Donc, l'âge pivot, il permet d'accélérer la réforme paramétrique.
Mais ma question, c'était, s'il y a ce compromis qui est fait entre le gouvernement et la CFDT et l'UNSA, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous allez continuer la grève si l'UNSA se retire? Il y a beaucoup de jeux.
Bah, vous savez que depuis le début, la CFDT ni l'UNSA n'ont considéré nécessaire de mobiliser de critiquer ou de contester. Ils approuvent le principe même du système universel par points. Ça ne nous a pas empêché d'expliquer les raisons pour lesquelles nous n'étions pas d'accord et de décider, puisque nous estimions ne pas être entendus, d'appeler à la grève le 5 décembre, à partir du 5 décembre, et de mobiliser depuis. Donc, la situation, de ce point de vue-là, ne serait pas nouvelle. Que nous apprenions que telle ou telle organisation syndicale est d'accord avec le projet du gouvernement, c'était déjà le cas jusqu'à maintenant, en dehors de cette question de l'âge pivot, qui, à mon avis, est un peu un leurre dans l'histoire. Évidemment, si le gouvernement le retire, ce sera un recul du gouvernement.
Un leurre, vous voulez dire, de la part de la CFDT?
D'une manière générale, parce que le gouvernement y tient. Pourquoi? Parce qu'il veut aller plus vite sur le paramétrique, sur les économies à réaliser. Et dans la mesure où il a dû reculer à la génération 75 la mise en œuvre du régime unique par point, c'est-à-dire la possibilité pour lui d'agir sur les valeurs du point, l'âge pivot dès 2022, parce que c'est ça l'objectif du gouvernement aujourd'hui, lui permettra de réaliser des économies en contraignant ceux qui pourraient faire valoir leur retraite à 62 ans de devoir attendre pour ne pas subir un malus ou de subir un malus.
Alors, à propos de la répartition des rôles, en quelque sorte, entre les syndicats, depuis quelques jours, les membres du gouvernement ou de la majorité disent assez ouvertement qu'il y a les syndicats avec lesquels on peut discuter, les syndicats réformateurs, donc en l'occurrence la CFDT et l'UNSA, et ceux avec qui on ne peut pas discuter, voire qui sont désignés parfois comme étant finalement de méchants syndicalistes, la CGT en particulier. Vous situez où? Vous avez l'impression d'être traité comment?
Enfin, je suis pas maltraité, je vais pas dire cela. Nous sommes sur une position qui est radicalement opposée.
Qui est quasiment la même que celle du gouvernement de la CGT, en fait,
et la nôtre.
Sur ce dossier.
Oui, mais ça, je ne suis pas le seul. Dans ce cas-là, la CGC est aujourd'hui venue avec nous dans la mobilisation à contester ce projet de régime unique par points. Donc,
ce serait infamant, parce que vous vous en défendez presque d'être.
Non. Je fais le constat. Moi, vous savez, les positions de force ouvrière, elles sont définies par force ouvrière.
Qu'est-ce qui vous différencie de la CGT pour compléter la question de Frédéric, puisque c'est bien ça que j'entends derrière sa question.
Bah, je pense qu'aujourd'hui, sur le dossier de la retraite, nous sommes sur une position analogue qui est que nous sommes contre ce projet de régime unique par points et que nous demandons au gouvernement de l'abandonner. Alors nous n'avons peut-être pas le même vocabulaire, nous n'avons pas les mêmes implantations syndicales, la CGT est plus implantée que nous à la SNCF, nous sommes plus implantés que la CGT, je sais pas moi, dans la métallurgie, à Airbus par exemple, voilà, et donc ce sont des secteurs qui ne se mobilisent pas exactement de la même manière façon aussi efficace peut-être pour des raisons diverses.
Est-ce que derrière
diverses,
tout ça, c'est pas parce qu'il y a la suppression des 42 régimes spéciaux en réalité?
Non, encore une fois, les régimes spéciaux, les trois principaux dont on parle, hein, parce qu'on a bien vu que, par exemple, pour les danseurs de l'opéra, d'abord, c'est pas beaucoup de monde, mais on a bien vu que c'était quand même problématique. Le gouvernement est obligé de concéder ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que ça ne concernera pas les actifs actuels du secteur de l'opéra. Si vous prenez le port autonome de Strasbourg, c'est 200 retraités pour 150 cotisants aujourd'hui, c'est quand même pas ça qui pose un vrai problème au système de retraite dans son ensemble. Les trois principaux, c'est les cheminots, les industries électriques et gazières et la RATP, c'est de l'ordre de 320 000 salariés actifs. Le régime général de la sécurité sociale, c'est 18 millions d'actifs. Vous savez, je vais vous donner une primeur. J'ai l'intention de faire un tweet sur les sondages d'opinion, puisqu'on m'interroge sur est-ce que vous avez l'opinion avec vous ou contre vous. La question qu'on pose, est-ce que vous êtes pour la suppression des régimes spéciaux? Évidemment, vous avez 320 000 actifs cotisants qui relèvent des régimes spéciaux face à 18 millions de salariés du régime général de la sécurité sociale. Donc vous avez facilement une majorité qui vous dit, bah oui, après tout, on peut supprimer les régimes spéciaux parce que eux sont très minoritaires. Si on pose la question, et moi j'ai envie de poser cette question-là, est-ce que vous êtes pour la suppression du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire de retraite des salariés? Vous aurez 18 millions de salariés qui vous diront non. Donc on aura une majorité qui sera favorable avec la question que nous poserons, nous.
Alors, les conflits sociaux, Yves Verrier, c'est largement une question de rapport de force. Et aujourd'hui, bien que le mouvement soit plus long qu'en 95, pour l'instant, on ne vous sent pas en mesure de faire plier le gouvernement et de retirer son projet comme vous le souhaitez. Il y a une journée de mobilisation, une nouvelle qui est annoncée pour jeudi. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez que ce soit un point de bascule dans le mouvement qui arrive quand même aujourd'hui à, on est au 34e ou 35e jour, les grévistes doivent commencer à être fatigués. Il y a le coût de la grève aussi, on peut en parler après, mais est-ce que vous pensez que ça peut être un point de bascule?
Alors, penser, je ne sais pas, en tout cas je l'espère, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. J'appelle, effectivement, j'ai lancé à plusieurs reprises, publiquement, un appel solennel à tous les salariés, jeunes, moins jeunes, j'insiste beaucoup, jeunes, moins jeunes, parce que c'est véritablement l'enjeu des retraites pour plutôt nos enfants et nos petits-enfants. Jeunes, moins jeunes, femmes et hommes, puisqu'on parle beaucoup de la situation des femmes à la retraite, qui est un vrai problème aujourd'hui, de tout corps de métier, parce que j'insiste encore une fois, ce ne sont pas les régimes spéciaux, donc j'espère que nous allons réussir, nous œuvrons à cela depuis le 5 décembre, nous avons repris de manière plus vive depuis lundi, et en perspective du 9 janvier, qu'on élargisse la grève, le plus de monde sera mobilisé, le plus on a de chances d'être entendu rapidement.
Rapidement, il varie, parce qu'on approche de la fin de l'émission. Je disais le coût de la grève. Est-ce qu'il existe chez vous un système d'indemnisation des grévistes? On sait que ça existe à la CFDT, c'est un système très organisé. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable chez vous?
Alors, nous avons ce qu'on appelle un fonds de solidarité de grève.
Oui. On dit que la CFDT a 130 millions d'euros.
Oui, alors nous n'avons pas des moyens qui sont mirobolants en la matière, mais effectivement, quand on est confronté à une grève longue et massive en nombre, ça rend plus difficile la solidarité. C'est pour ça qu'on fait appel à des dispositifs
Mais vous avez
extérieurs.
Un dispositif autonome qui vous permet d'aider les grévistes.
Oui, oui. Mais ça ne remplace pas un salaire, loin s'en faut.
Pour finir, vous vous souvenez peut-être de cette phrase de l'écrivain Sylvain Tesson qui avait dit « La France est un pays, est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Si on regarde aujourd'hui autour de nous, en Europe, on voit que l'Italie est quasiment en récession, que la Grande-Bretagne est engluée dans le Brexit, que l'Allemagne, c'est plus vraiment le miracle économique. Est-ce que finalement la France, on le voit quand même, ne va pas si mal? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est un peu entré dans le règne du pessimisme, avec quand même une cohésion sociale qui n'est plus là, où chacun est un peu, et c'est la critique de certains, effectivement, est assis sur ses privilèges, et moi, combien je vais toucher, sans, dans le fond, s'occuper du voisin ou de ce que je dis, ou ce que je disais, la cohésion sociale et l'intérêt général.
Alors, moi, je ne suis pas de ceux...
C'est une question qu'on peut...
Oui, oui, absolument. Non, mais c'est une très bonne question. Et je ne suis pas de ceux qui considèrent que la France est un enfer. Au contraire, j'ai même souvent pris une statistique qui vient de l'Eurostat. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, nous avons aujourd'hui un système de retraite qui fait que c'est en France que nous avons le taux de pauvreté parmi les retraités le plus faible et de loin en Europe. Et c'est justement cela que nous voulons préserver. Oui. Et je ne crois pas, par rapport à l'environnement qui est le nôtre dans d'autres pays, les situations qui peuvent être plus inquiétantes que celles que nous connaissons en France, que de reculer en termes de situation en France améliorerait la situation de nos voisins. Et je pense au contraire que chaque progrès que nous...
Non, mais on peut aggraver notre situation, en tout cas la situation de certains... artisans, de restaurateurs, on le voit avec cette grève.
Avec
aussi.
Le mouvement de grève. Je comprends, effectivement, il y a de grosses difficultés qui sont le produit de la grève. On parlait des salaires de ceux qui sont en grève et qui vont se retrouver quasiment avec un mois
et
à zéro.
Cela, on n'y pense pas.
Mais si, j'y pense, bien évidemment. J'y pense d'abord parce que, je le redis, nous sommes sincères, nous pensons que ce projet de régime unique par points est non seulement une erreur, mais est porteur de recul en matière de droit à la retraite demain et après-demain. Donc, nous pensons à cela. Nous ne voulons pas avoir dégradé les droits à la retraite qui sont ceux que nous avons conquis dans ce pays, d'une part. D'autre part, je le rappelle,
en
on parle
secondes.
Beaucoup des artisans, des commerçants, des professions agricoles. Les régimes de salariés contribuent à la compensation financière des déséquilibres démographiques que rencontrent ces régimes-là. Nous sommes solidaires.
Voilà.
Chaque année, c'est 3-4 milliards d'euros.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Verrier.